Peel, l'animatrice de Samedi de lire. Ce samedi, 14h, je reçois Michel Coulombe, auteur de Méchant patron. Soyez des nôtres afin de le connaître davantage.
Tous les dimanches matins, dès 8h, Santé en direct, avec Joanne Verdon, naturopathe, vous propose d'améliorer votre santé grâce aux médecines alternatives. Dès 8h, les dimanches, Santé en direct à CKIA.
Bonjour, c'est Eva. Vous écoutez CKIA FM 88.3. Tendez l'oreille, on parle de vous.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor.
Bonjour, ici Catherine Ferland. Vous êtes à l'écoute de Tu parles d'une histoire sur les ondes de CKIA 88.3.
Bonjour tout le monde, ici Catherine Ferland pour votre émission Tu parles d'une histoire en ce beau samedi 1er mars 2014. Alors aujourd'hui, un beau sujet, je vous dirais qui nous amène très loin, qui va nous amener à voyager un peu, puisqu'on reçoit Benjamin Lagarde, qui a réalisé une thèse de doctorat en anthropologie sur le maloya. Le maloya, c'est une sorte de musique typique de l'île de la Réunion. Alors vous verrez que même si ça a l'air bien exotique comme ça, il y a des parallèles intéressants à faire avec le Québec, puisque l'île de la Réunion, comme le Québec, a été colonisée par les Français. Alors on va retrouver des noms de famille familiers, comme les Gontier, par exemple, à l'île de la Réunion. Et dans la musique également, on va avoir quand même des parallèles intéressants à faire. Donc, mon invité, Benjamin Lagarde, va nous expliquer ce qu'est le maloya. Il va nous expliquer aussi c'est quoi son utilité culturelle à cette musique-là, son évolution. Et bien sûr, va nous faire entendre des extraits de pièces. Donc, une belle émission, toute dédiée à un voyage bien, bien loin. Mais d'abord, comme d'habitude, vos actualités historiques. On a une belle exposition à voir, en couple ou pourquoi pas en famille. Avec la semaine de relâche, ça peut être une bonne occasion. Alors, c'est au Musée de la civilisation à Québec, la nouvelle exposition permanente « C'est notre histoire, Premières Nations et Inuits du 21e siècle ». Alors, c'est une belle exposition qui permet de faire connaître les cultures autochtones d'aujourd'hui, leur diversité. On peut apprendre aussi leur vision du monde, leur affirmation et les processus identitaires en relation avec leurs histoires. Pour cette exposition, le musée a travaillé avec Yves Sioui Durand. Donc, il y a plus de 400 objets, des projections sur grand écran, des documents audiovisuels, des œuvres d'artistes autochtones contemporains et des bornes audio qui vont illustrer le propos. Bref, c'est une exposition qui propose une belle réflexion sur ce que signifie être autochtone au 21e siècle. C'est au Musée de la civilisation, rue Dalhousie à Québec. On peut s'informer au 418-643-2158 ou au www.mcq.org. Une autre belle destination de sortie sur le territoire de Québec, c'est le Moulin des Jésuites, dans le secteur Charlebourg, un superbe bâtiment patrimonial construit en 1742. On peut y suivre une visite commentée, pour découvrir l'histoire du moulin lui-même, son fonctionnement et aussi ce qu'était la vie de meunier. C'est d'une durée d'environ 50 minutes. Et il y a également une exposition permanente qui s'intitule « Vivre au Trait-Carré au temps des moulins » qui nous fait découvrir le village du Trait-Carré, l'importance des moulins et le quotidien des gens dans les années 1865. Donc, c'est ouvert tous les samedis et dimanches de 10h à 17h jusqu'à la mi-juin. On compte 3 $ pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Je vous rappelle que le Moulin des Jésuites est situé sur le boulevard Henri Bourassa dans l'arrondissement de Charlebourg. Pour en savoir plus, on peut téléphoner au 418-624-7720 ou consulter le site Internet au www.moulindesjésuites.org. La semaine dernière, les services historiques 6 associés ont été contraints, imaginez-vous donc, d'annuler leur café historique en raison de la panne électrique qui a affecté une grande partie de la rue Saint-Jean, dont l'église Saint-Jean-Baptiste, où devait se dérouler l'activité. Alors, l'activité est reprise, heureusement, cette semaine, le jeudi 6 mars. Rappelons que ce café historique porte sur les ressorts politiques et militaires de la conquête. C'est avec les historiens Sophie Imbeau et Yvon Desloges qui ont signé des contributions dans l'ouvrage « Vivre la conquête » qui est paru récemment aux éditions du Septentrion. C'est donc présenté dans le cadre du 25e anniversaire du Septentrion par les services historiques 6 associés ce jeudi 6 mars à 19h30, si tout va bien, à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Jean à Québec. C'est gratuit et le café est même fourni. Alors, la réservation est recommandée. On téléphone au 418-641-6798. Le mercredi 19 février dernier est sorti en librairie le roman historique « Sortilège de Louisbourg », écrit par Daniel Marchildon et publié aux éditions David. L'action débute en juillet 1749 dans l'île Royale, qu'on connaît maintenant comme l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Alors, la forteresse de Louisbourg, qui avait été perdue aux mains des Anglais 4 ans plus tôt, revient aux Français. En fait, dans ce roman-là, on va suivre les pas de Mathurin le Mordant, qui est un jeune lieutenant à la carrière prometteuse qui débarque à Louisbourg et qui va croiser, incidemment, le chemin de Josette Guillon. L'attirance réciproque des amoureux se vit sur un fond des dures conditions de vie. On se reporte à cette époque-là, alors on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer pour Louisbourg. Il y a des luttes de pouvoir, des exécutions. Bref, c'est un épisode marquant de l'histoire de l'Acadie et de toute la guerre de 7 ans également. J'ai fini de le lire il y a quelques jours et je vous dirais que c'est très prenant. J'ai trouvé que ce roman-là, il y a de belles qualités, une écriture fluide, beaucoup, beaucoup d'informations, mais sans verser dans le pédagogique, là, si vous voyez ce que je veux dire. On s'attache très rapidement au protagoniste et la fin réserve de belles surprise. Alors, Daniel Marchildon, c'est un franco-ontarien de La Fontaine, en Ontario, qui a signé d'ailleurs une vingtaine de publications, des romans historiques, des romans pour la jeunesse également. Alors, le Sortilège de Louisbourg, aux éditions David. Je viens également de recevoir « Entre fleuves et rivières », correspondance entre Gabriel Roy et Marguerite Laurence. Comme le titre l'indique, il s'agit de la compilation d'un échange de lettres entre ces deux romancières. En fait, c'est un échange qui a débuté au début de l'année 1976, alors que ces deux écrivaines étaient au sommet de leur carrière respective et qu'elles entament une correspondance qui va se poursuivre pendant 7 années. Donc, c'est un roman, c'est pas un roman, c'est plutôt une compilation de leur correspondance qui vient de paraître aux éditions des Plaines. Je vous en reparlerai lorsque je l'aurai lu. Alors, pour débuter avec notre thème du jour, on va écouter une pièce dont le sens nous sera expliqué immédiatement après par mon invité, Benjamin Lagarde. Je vous rappelle que vous écoutez « Tu parles d'une histoire » et que l'émission d'aujourd'hui est consacrée au Maloya.
Elle y vit dans LPS, là-bas il faut la consélation. Mais ça l'entendit, le sang mon rouleur pour mon pays. Mirod mon paradis, l'île d'Anziba mon paradis. Mais ça l'entendit, le sang mon rouleur pour mon pays. Mirod mon paradis, l'île d'Anziba mon paradis. Contentement d'un cœur pour sortir, pas de zépan viri. Enfant ou agrandi, va chanter Maloya pour son pays. Viril il a dit, Maloya ça y m'opi. Viril il a dit, Maloya ça y m'opi. Pékis a l'entendu, le son mon rouleur pour mon pays. Mirod mon paradis, il n'en dit pas mon paradis. Pékis a l'entendu, le son mon rouleur pour mon pays.
Miron mon paradis, l'île Zanzibar mon paradis. La Réunion, notre pays, un famille, cinq nations. Gros blanc son paradis, vivait faire sa pays béton. Les nains n'a plus faiblesse, mais les gars, ils sont cochons. Elles vivent dans LTS, là-bas il faut la constellation. Mais ça l'entendu, je sens mon rouleur pour mon pays. Miron mon paradis, ils en disent pas mon paradis. Mais qui ça l'entendu, je sens mon rouleur pour mon pays. Miron mon paradis, ils en disent pas mon paradis. Mais qui ça l'entendu, je sens mon rouleur pour mon pays. Miro de mon paradis, l'île Zanzibar mon paradis. Pourtant, tu m'as tant cœur pour sortir, bande ses et bande piri. Enfants ou agrandi, va chanter Maloya pour son pays. Viril il a dit, Maloya ça y morpi. Viril il a dit, Maloya ça y morpi. Bekissa l'entendit, je sens mon rouleur pour mon pays. Miro de mon paradis, l'île Zanzibar mon paradis. Bekissa l'entendit, le sang mon rouleur pour mon pays. Miro de mon paradis, l'île Zanzibar mon paradis. 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 Miro de mon paradis, l'île Zanzibar mon paradis.
On vient d'entendre une très belle pièce en maloya. En fait, c'est une pièce qui est assez représentative d'un genre musical qu'on retrouve dans l'île de la Réunion et que va nous présenter notre invité du jour, Benjamin Lagarde. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, Catherine.
Alors, Benjamin, avant de te demander de te présenter toi, je vais te demander de nous présenter cette pièce qu'on vient d'entendre.
Oui, alors, en fait, c'est une entrée dans la complexité de la musique à l'île de la Réunion, qui était quand même un thème assez compliqué à traiter en quelques dizaines de minutes ensemble. Alors j'ai essayé de trouver un chemin faisable par tout un chacun de nos auditeurs aussi. Et je suis rentré dans l'île par cette histoire de paradis de l'île Zanzibar et d'un morceau qui a des consonances, si vous l'avez un peu noté, reggae. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on a beau être dans l'océan Indien, donc de l'autre côté de l'Afrique par rapport aux Caraïbes et à la Jamaïque, on est quand même dans une histoire commune avec les mondes créoles, c'est-à-dire l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la rencontre forcée, malencontreuse peut-être, mm-hmm. rencontre, mais en tout cas dans la manière dont ça s'est déroulé, mais la rencontre tout de même entre des peuples de couleurs différentes, d'intentions, d'intérêts différents.
Et de traditions musicales.
De traditions musicales, de culture, mm-hmm. exact. Et du coup, l'océan Indien, dans les années 70, était en pleine ébullition au niveau de la décolonisation. Donc, l'île Maurice, la Réunion, l'île Rodrigue, qui sont trois îles anciennement mm-hmm. esclavagistes avec la culture du café, du sucre, avaient des velléités d'affranchissement par rapport à l'Angleterre et à la France. Mm-hmm. Et c'était pas sans évoquer le rastafarisme et Bob Marley et toute la mouvance jamaïcaine qui oui. était elle-même branchée, si on veut prendre le terme de branchement, branchée sur les États-Unis, sur l'histoire de la soul music, l'histoire de l'affranchissement aussi des anciens canons raciaux et racistes des États-Unis du Sud qui ont amené finalement la soul à mettre sur le devant de la scène le gospel et puis la culture noire dans son essence sacrée mm-hmm. et qui finalement par le mix qui opérait en Jamaïque dans ces années-là a donné naissance au reggae et tout de suite dans quelques dizaines d'années enfin en quelques années plutôt le reggae a pris, il a pogné vraiment dans les îles Caraïbes, dans le monde entier,
mais oui, c'est ça.
Mais aussi donc dans l'océan Indien où on a eu tout un mouvement de réadaptation, d'acclimatation du reggae qui a donné le segué. Parce que une des musiques traditionnelles locales de la région qui nous intéresse, qui est donc située à l'est de Madagascar, c'est le sega. Et donc, on a des artistes comme Kaya, un nom qui est à consonance extrêmement reggae, le nom de l'herbe qu'on fume, le Kaya. Kaya, qui est un artiste de l'île Maurice qui a été assassiné en prison par la police mauricienne, et qui chantait avec ses dreadlocks du l'affranchissement des classes pauvres de ces îles-là, et qui avait été un peu à l'instigation de ce nouveau genre musical, le segué. Et donc là, on vient d'avoir un exemple réunionnais de segué, interprété par le groupe Zanzibar, le morceau s'appelait Mon Paradis. Donc là, on est un peu plus tard, on est dans les années 90, et on a une sonorité particulière. Le morceau, vous l'avez peut-être remarqué, se terminait sur une partie uniquement rythmique avec des instruments de percussion et des chants. Et bien là était le maloya que j'ai étudié particulièrement. C'est-à-dire, c'est ce rythme qui sous-tend l'évolution de nouvelles musiques tournées vers la world music ou vers le reggae, le rap ou le jazz.
Il y a des bases communes comme ça qu'on va reconnaître.
Et voilà. Et c'est ce maloya sec qu'on entendait à la fin du morceau qui a donné sa couleur à toute la musique contemporaine de l'île de la Réunion. Alors, une petite précision, à l'île Maurice, on ne parle pas de maloya. C'est vraiment réunionnais.
Ah, d'accord. Voilà.
C'est quelque chose qui est né à l'île de la Réunion. Et c'est un des objets de ma recherche, c'est d'avoir approfondi les conditions d'essor, d'émergence de cette musique-là.
Justement, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que, bon, habituellement, je reçois des historiens, mais justement, je suis contente aujourd'hui de pouvoir entendre parler plutôt dans une perspective anthropologique, parce que toi, tu as réalisé une thèse de doctorat en anthropologie. Peux-tu nous parler un peu de tout ça?
Oui, alors j'ai terminé mon doctorat il y a maintenant un an à l'université d'Aix-Marseille, en France, où j'ai suivi les enseignements de Jean Benoît, de Jean-Luc Bognol, qui sont des personnalités un petit peu du monde anthropologique de la recherche créole. Et pas loin, il y avait aussi le centre de recherche sur la langue créole de Robert Chaudançon, qui sont des personnes aujourd'hui retraitées, mais qui, dans les années 60, 70, 80, ont beaucoup œuvré pour la reconnaissance des cultures de ces minorités françaises, francophones en tout cas. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pourrais reprendre le long fil de mon intérêt progressif pour le maloya, en débutant déjà parce que l'anthropologie, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est quand même une science qui a des résonances très poétiques et très très littéraires finalement, qui sont pas du tout scientifiques aussi. C'est très intéressant de prendre un anthropologue, de le mettre quelque part et puis d'essayer de voir comment il va essayer de nous parler de survivre. Qu'est-ce qui va survivre en lui, puis de sa culture de départ. Puis de voir comment en fait certains pans de la culture qu'il étudie sont privilégiés par rapport à d'autres. Donc les biais de recherche, parce que on est dans les sciences humaines, donc l'expérience, l'expérimentateur fait partie de l'expérience. C'est le point de vue qui crée l'objet.
Il va colorer son interprétation de ce qu'il observe et tout ça.
Exactement. Donc moi personnellement, je pourrais retrouver l'intérêt pour la musique très tôt par mes parents, bien sûr. Puis je pense que tout un chacun, on a tous des culture musicale assez ancrée, parce que la musique fait partie des premières choses qu'on apprend, puis pour des raisons qu'on pourra peut-être développer plus tard, mais le son en lui-même est quelque chose qui nous demande une interprétation, parce qu'un son en soi n'est pas directement signifiant. Il faut qu'il passe par tout le réseau neurologique, biologique, puis culturel.
Il faut lui donner son sens.
Exactement. Le filtre de la réception, des perceptions, etc. Et il me semble que justement, comme la cuisine, comme le rapport au corps, comme l'esthétique, la musique est un domaine privilégié pour justement arriver à comprendre un peu l'autre. Et c'est ça que je voulais peut-être aborder, c'est que quand j'étais très jeune, je mettais chez moi des disques vinyle de musique afro-américaine, Marvin Gaye ou les Temptations par exemple, qui étaient des musiques qui ont beaucoup marqué la génération de mes parents. Et moi finalement, en tant que jeune, un peu jeune adulte, mais presque à peine sorti de l'adolescence, je me suis mis à étudier l'anthropologie, puis je me suis dit, mais finalement l'autre qu'on nous fait toujours miroiter, l'autre avec son exotisme, l'autre avec sa distance. C'est sûr que là, on parle d'un pays où les gens sont pieds nus au soleil, à manger des bananes, vous voyez, et qui nous font danser le samedi soir, parce que c'est ça aussi, je veux dire, la culture de l'exotisme, c'est le disco, c'est la danse du samedi soir, c'est une longue histoire, le noir en Occident, si vous voulez. Et donc,
absolument.
Moi, en tant qu'anthropologue mélomane, enfin, anthropologue en devenir, puis surtout mélomane, je me suis dit que j'avais envie de comprendre un peu la réalité de ces gens qui produisent ces musiques qu'on écoute chez nous pour du divertissement, que ce soit la salsa pour danser, le reggae pour plein de raisons, pour être un peu en rébellion, comme le hip-hop, ou la samba dans les années 50-60 en France. Enfin, toutes ces histoires d'échanges culturels qui se sont faits autour de la musique. Et qui finalement nous pose une question, c'est la place de l'autre dans notre culture.
Oui, si parce qu'avant d'être un divertissement pour nous occidentaux, ce sont des musiques qui sont extrêmement importantes d'un point de vue identitaire pour les peuples qui les créent. Ils ne les créent pas pour le plaisir de nos oreilles, quoique, bon, oui, on puisse en faire un bon usage ici du côté de nos loisirs parce qu'on l'apprécie vraiment, mais à la base, ce sont des musiques qui sont créées par et pour un tissu social, une identité qui est construite.
Exact.
J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, oui. Benjamin. Justement, tout à l'heure, tu parlais de reconnaissance et le Maloya a fait son entrée dans le patrimoine à l'UNESCO. Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, alors c'est arrivé au fil, enfin, c'est-à-dire pendant ma recherche, qui a débuté en fait en 2000. L'an 2000. Après, j'ai interrompu mes études, mais j'ai repris mes études en 2005. Et la reconnaissance, l'inscription du Maloya au patrimoine mondial de l'humanité s'est faite en 2008. Et moi, j'étais en pleine étude. Et ça n'a pas été sans me poser des nouvelles questions, voire même à en clarifier certaines aussi. Mais c'est-à-dire que j'allais vous en parler parce que le Maloya, quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit qu'il est multiple. Et on s'aperçoit qu'il y a des traditions variées là-dedans, il y a des histoires culturelles, esthétiques, linguistiques très variées. Et les gens qui ont amené le Maloya à l'UNESCO s'inscrivent vraiment dans la lutte identitaire des années 60-70 qui avait été menée pour l'indépendance de l'île. Donc, c'est-à-dire, c'est un pan très politisé de la culture créole et du Maloya en l'occurrence, en particulier, c'est-à-dire que c'est le Parti communiste local qui existe depuis 59.
Ok.
Ouais, et qui avait été créé. Ben, en fait, ça date de bien plus tôt, là, le syndicalisme, etc. Mais en 46, les trois départements français qu'on connaît aujourd'hui, qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, plus le quatrième qui est la Réunion, sont devenus des départements français d'outre-mer.
D'outre-mer.
Alors qu'avant, c'était des colonies. Ça, c'est par exemple, on le doit au combat d'Aimé Césaire ou de Raymond Lapervanche ou du fondateur du communisme réunionnais qui s'appelle le père Vergès. Alors son prénom, il m'échappe parce que il a été un petit peu effacé par ses deux fils qui sont Paul et c'était Raymond Vergès, pardon,
Raymond
pour le père
Vergès.
Et
okay.
Les fils, c'est Paul et Jacques qui sont assez connus. Jacques Vergès, le grand avocat bien connu, puis Paul Vergès qui est par contre lui l'homme politique réunionnais que tout le monde connaît dans l'île parce qu'il a même eu le surnom de bon Dieu sur la terre.
Oh. C'est lourd à porter, ça, comme karma politique.
Oui, quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'île. Entre la métropole française et puis entre les différentes factions sociopolitiques dans l'île. Donc c'est vrai que le courant particulièrement communiste, enfin idéologisé du Maloya a une prévalence, à la prévalence en termes de Maloya. Et à travers lui, on aborde la Réunion. Donc, c'est-à-dire qu'il nous oriente, il nous influence un petit peu sur la manière dont on va lire le contexte réunionnais.
Donc, en écoutant la musique, on va être capable de mieux comprendre l'évolution carrément de l'île, de son histoire, de ses habitants.
Oui, tout à fait. Wow. À condition de ne pas rester justement dans une seule musique, peut-être celle que le communisme nous montrerait. J'étais particulièrement sensible à ça parce que, bien sûr, grâce à cette vision, on mettait en question toute l'histoire de l'île qui était coloniale et qui était donc l'histoire des vainqueurs, des dominants.
Justement, peut-être qu'on pourrait écouter une pièce et tu peux nous la présenter peut-être?
Alors c'est la première chanson que j'ai choisie pour vous montrer les trois grandes familles de Maloya qu'on a. Donc on va commencer avec le Maloya politique et on va écouter la voix de Firmin Viry, qui est une personne d'aujourd'hui presque 80 ans, qui est un des grands arcs-boutants de l'île de la Réunion, c'est-à-dire un arc-boutant, un pilier de l'édifice culturel réunionnais. Quelqu'un qui a beaucoup appris des ancêtres, des anciens, et qui l'a transmis aux jeunes générations, justement à la croisée de ces années 60-70 où l'île rénovait son statut, son identité. Donc là, il nous chante La vie chômage, qui est un chant qui évoque l'esclavage au présent.
Très bien.
pas mon mot, Lila, quitte à moi. Lila, pas quitte à moi, donne la misère. Papa, maman, Lila, quitte à moi. Lila, pas quitte à moi, donne la misère. La misère, moi, la peau passée. Wawa, le cœur, le courage pour supporter. La misère, moi, la peau passée. Wawa, le cœur, le courage pour supporter. Avec la vie comme elle a, ça l'a pas facile. Pour nous gagner travail, pour gagner une bouche et manger. Avec la vie comme elle a, ça l'a pas facile. Pour gagner travail, pour gagner une bouche et manger. La vie chômage, ça l'est dire, peut-être un jour ça va finir. La vie chômage, ça l'est dire, peut-être un jour ça va finir. La vie se mal, ça allait dire, peut-être un jour ça va finir. M'y lève 4h de matin, mon beau tel est dessus mon dos. M'y monte en haut là-bas, pour aller travailler terrain gros michier. M'y lève 4h de matin, mon beau tel est dessus mon dos. M'y monte en haut là-bas. Les travail terrain gros michier. Transpiration coule dans mon dos. Dis comment on a moins comme animaux. Transpiration coule dans mon dos. Dis comment on a moins comme animaux. La vie chômage, ça allait dire, peut-être un jour ça va finir. La vie chômage, ça allait dire, peut-être un jour ça va finir. La vie chômage, ça allait dire, peut-être un jour ça va finir.
La vie chômage, on reconnaît vraiment une thématique qui est même près de notre réalité encore. Hein.
Oui.
On comprend la misère humaine qui est décrite là-dedans, c'est très touchant.
Tout à fait, tout à fait. Puis en fait, l'objectif, c'est justement de sensibiliser l'auditeur hein, à la condition difficile des travailleurs planteurs réunionnais qui étaient encore sous le colonnage parcellaire, c'est-à-dire qu'il travaillait pour le gros monsieur, comme il dit. M'y lève 4 heures matin, m'y monte au travail, terrain gros monsieur. La transpiration coule dans mon dos et il y commande à moins comme animaux. Donc c'est les maltraitances en fait du patron, du gros monsieur. Souvent on peut l'appeler aussi le gros blanc, parce que techniquement la minorité blanche administrait toute la colonie et les plantations. Et c'est vrai que Viry dans ce texte fait dans ce chant qui est un cabaret. Donc la mélodie elle-même est une forme traditionnelle sur laquelle lui-même a posé ses nouveaux textes, nouvelle parole. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il fait directement le parallèle historique entre la période esclavagiste et la période contemporaine, donc des années 70, où l'île voulait devenir autonome et où il fallait que tout un chacun rallie l'idéologie autonomiste. Et je voulais vous montrer donc une deuxième façon de voir le Maloya, qui était le Maloya, par contre, qui s'est développé exactement en même temps, qui était la faction plus droitiste de la politique locale, qui était plutôt pour l'assimilation à la métropole. Donc c'était plutôt, on était dans le droit fil de la colonisation, et ce sont les élites locales qui dirigent l'industrie du disque de ces gens-là, qui travaillent dans les bals du samedi soir, qui ont une toute autre visibilité, alors que Firmin Viry a dû fuir les coups de matraque, a fait de la prison, ses chants étaient interdits. Lui, il était dans la lutte, alors que les autres étaient plutôt dans le ronron des balles. Et on est arrivé à un groupe, comme on va écouter maintenant, qui s'appelle Kaloupilé, qui est en fait une sorte de Star Academy des années 70, où on sélectionnait les meilleurs chanteurs, les meilleures danseuses de l'île, et on faisait un ballet populaire, mais un ballet destiné à voyager dans le monde entier pour faire des concours de folklore. Et donc, ils ont eu énormément de prix, puis il y avait beaucoup d'argent investi dans cette tournée-là, alors que les autres sont, je vous le dis, pieds nus avec leurs petits instruments fabriqués à la main. Oui, là, on est dans carrément autre chose. On est à des micros électriques.
Mais toujours un Maloya quand même.
C'est du Maloya quand même. Alors moi, après, au niveau plus détaillé, on peut rentrer dans les détails, vraiment au niveau des structures musicales, au niveau des instruments, au niveau des textes, au niveau des mélodies, on a beaucoup de variations. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de dire qu'il y avait trois, voire plus, familles de Maloya.
Donc on va écouter la version un peu plus
folklorique.
Folklorique, ok.
Destinée au tourisme, aux touristes.
D'accord.
Voilà.
Ah
Alléluia, alléluia, alléluia. Vive sirène, plein océan indien. Alléluia, tu danses en haine. Pour ton père où tu viens. Alléluia, t'es toujours plus belle. Tu en sorcelles dans ton amour de reine. Prends du sang au plus malheureux. La croix du sud dans plein ciel. Alléluia.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Tu parles d'une histoire sur les ondes de CKIA 88,3. Catherine Ferland avec vous pour encore une demi-heure avec mon invité de la semaine, Benjamin Lagarde. Ce qu'on est encore en train d'écouter, c'est du Maloya. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, 1er mars. Et Benjamin, tu peux peut-être nous expliquer des éléments sur lesquels on peut peut-être porter notre attention dans cette pièce-là.
Oui, alors déjà, bon, vous avez remarqué qu'on était en orchestre, hein. Il y a tout un chœur, là. Il y a des hommes, des femmes, alors que tout à l'heure, on avait Viry tout seul, qui chantait un petit peu presque en coupant sa canne à sucre, oui. Mais en faisant du Maloya aussi, parce que Viry est connu pour sa troupe, la troupe Firmin Viry, avec sa famille, des amis. Ils ont une troupe d'une 18 personnes à peu près. Donc, c'est un grand monde aussi, mais j'ai préféré qu'on écoute bien la voix du créole d'abord tout seul. Mais là, donc, on a une autre esthétique, un autre projet idéologique derrière. C'est celui qui s'appelle, donc, Alléluia Maloya, c'est-à-dire on s'inscrit là non plus dans la croyance superstitieuse des païens sauvages, africains déplacés pour la colonie. Là, ce sont vraiment des catholiques qui rayonnent, qui sont heureux, qui vous invitent dans l'île sirène de l'océan Indien, je cite. Tu danses sans haine pour ton pain quotidien, tu ensorcelles en glissant au plus malheureux la croix du sud en plein yeux. C'est-à-dire que la Croix du Sud, c'est de la constellation, hein, bien visible dans le sud, qui est citée ici, mais c'est surtout l'idée de croix, je pense, qui fait allusion à l'Alléluia.
Mais c'est frappant parce qu'il y a vraiment une parenté musicale avec le gospel, justement. Oui. L'aspect Alléluia, bon, c'est sûr, un rythme beaucoup plus exotique, on pourrait dire, mais vraiment,
mais tout
on
à
sent,
fait. Les liens sont forts puisque l'évêque de la Réunion, qui est Monseigneur Aubry depuis 1976, est un petit peu derrière ce projet qu'on vient d'écouter aussi. Lui-même est un petit blanc de l'île de la Réunion, c'est-à-dire il est de catégorie sociale de classe moyenne, on pourrait dire. Puis il a fait ce séminaire dans l'île et puis en métropole et à l'étranger. Mais il a toujours eu cette idée, lui aussi, de défendre la nouvelle identité réunionnaise. Donc, c'est-à-dire depuis que le département d'outre-mer est né, il faut que l'île devienne quelque chose d'autre que ce qu'elle était, c'est-à-dire un affrontement entre des classes. Là, il n'y a plus de race, si vous voulez. On passe à un affrontement de classes, entre guillemets. Alors, c'est ce que faisait très bien le Parti communiste. Par contre, pour des gens qui tiennent un peu qui tirent un peu plus sur l'interprétation catholique, religieuse de l'amour, etc., c'est une question de mélange des races, plutôt. On n'a pas vraiment oublié la question de la race d'avant. On est plutôt dans le métissage. Vous voyez. Donc là, on a vraiment beaucoup de clichés dans le morceau qu'on vient d'écouter, mais qui sont aussi
tout le monde est beau,
valables.
Tout le monde est gentil, voilà, il fait beau, le soleil.
Exactement, on encense les qualités physiques de l'île comme celles de la réunionnaise, entre guillemets.
Ouais,
donc l'idée de chant, de danse, avec ces peuplades, comme il est dit, qui n'aiment que l'amour. c'est un petit peu tendancieux et puis c'est un pan du Maloya qu'il faut pas exclure parce qu'il a énormément essaimé dans l'esprit des gens qui sont catholiques en grande partie. Donc il y a eu toute une mouvance qui a bien pris là-dedans aussi.
Oui.
Et donc pour terminer avec la troisième famille dont on va écouter un autre extrait, c'est celle qui est née d'elle-même, si je peux dire ça ainsi, c'est-à-dire qu'elle est arrivée un petit peu après sur les décombres des deux précédentes, parce qu'elle s'est servie des précédentes qui pour la première fois mettaient leur musique personnelle à eux sur le devant de la scène publique. Jusqu'ici, le Maloya, on en a des traces au 19e ou même avant par des descriptions de témoignages écrits. Le Maloya existait, mais il était difficile à approcher parce qu'il était vraiment chanté la nuit, caché par des gens qu'on ne voulait pas connaître, les Noirs, etc. Et du coup, le Maloya, grâce au Parti communiste puis au courant folkloriste, est devenu une véritable carte de visite de l'île de la Réunion. Et ces gens-là, qui pour eux, qui, pour lesquels le Maloya avait toujours une fonction rituelle, familiale, de mémoire d'ancêtres qu'on se transmettait avec des chants, que ce soit pour se battre ou pour demander quelqu'un en mariage ou pour animer une soirée et boire des coups. C'est-à-dire que le Maloya, dans toute sa vie quotidienne, reprenait une autre dimension grâce à cette mise en l'air, comme on l'a appelé, du Maloya, c'est-à-dire la sortie du fait noir, la sortie de la nuit. On dit fait noir, il me semble, d'ailleurs, au Québec, pour le soir. Donc, eux, ils ont gardé le terme de nuit, fait noir, qui a une consonance qui parle du noir.
Oui.
Donc, le fait noir, dans lequel était cantonnée la culture des Noirs, des descendants d'esclaves, a tout un coup basculé pour se retrouver au grand jour, et grâce au Parti communiste notamment. Et des gens comme le roi Caf, le roi noir, Caf voulant dire Cafre.
Okay.
La Cafrerie, c'est donc la zone est de l'Afrique où, où beaucoup de marchands d'esclaves s'approvisionnaient pour l'océan Indien. La Cafrerie, donc, ça vient de l'arabe kafir, infidèle. Donc c'était les païens. Puis du coup, le mot Caf est resté comme un appellatif dévalorisant, le noir.
Ah oui.
Et c'est pour ça que Le Roi Caf, qui est le premier disque de Maloya CD, sorti en 1992, c'est celui du Roi Caf, qui a déjà 70 ans à peu près sur ce disque, qui est une personnalité incontournable de l'île, même si elle est peu connue à l'extérieur. Le Roi Caf a redonné des lettres de noblesse à la culture locale, qui s'est dit, voilà, ça y est, ça c'est nous. Jusqu'à maintenant, c'était formidable tout ce qui a été fait. D'ailleurs, Zanzibar en parle, c'est grâce à Viri, Firmin Viri, que le Maloya s'est racheté et qu'il ne se perdra plus. Là, c'est le Roi Caf qui, pour la première fois, met son Maloya sur CD. C'est quand même quelque chose d'important. Et je vous invite à inviter ce morceau qui s'appelle Diaoumem, c'est-à-dire un petit peu en langage créole. Laisse-moi te raconter. Je vais te raconter quelque chose.
Alors, écoutons Diaoumem.
Au chien baignoir, mais n'en est gratté à du bois, mais dans un verre à l'orum, pour de maniatoine mon les fruits. Là au chien baignoir, oui, mais n'en est gratté à du bois, mais dans un verre à l'orum, pour de maniatoine mon les fruits. Y'a ou même, ma fée bataille des frères, y'a ou même, ma fée bataille des frères, y'a ou même, ma fée bataille des frères, y'a ou même, ma fée bataille des frères. Là au chien baignoir, oui, n'en est gratté. Oui, mais n'en est gratté à du bois, avec un verre de loup, pour eau de manière de douane, mon esprit. Y'a ou même, on fait bataille des frères. 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 Hein, la petite citronnelle, ananas joli, j'aime Jean. 15 ans la banque au gagné, la peur de paillage bouni. La petite citronnelle, ananas joli, j'aime Jean. Oui, nana jolie, jeune Jean, 15 ans la banque au gagné.
Alors, on vient d'entendre un autre extrait d'une pièce de Maloya. Cette fois, c'était la version, on pourrait dire, qui est née de la synergie entre le Maloya un peu plus traditionnel, la complainte qui nous venait des esclaves, et le Maloya peut-être un petit peu plus joyeux, exportable, touristique. Et maintenant, où tu nous amènes, Benjamin, Benjamin Lagarde? Où est-ce qu'on s'en va avec ce Maloya?
Alors voilà, là, donc je vous l'ai dit, ce Maloya qu'on vient d'écouter par le roi Kaf nous parle vraiment de la vie quotidienne. On avait une allusion à la sorcellerie, une autre à l'alcool, une autre à la bagarre, une autre aux jeunes filles qui n'ont pas encore gagné 15 ans mais qui cherchent leur nom madame déjà, donc qui cherchent peut-être à se marier. Mais donc c'est plutôt un Maloya de la vie de tous les jours. Et là, on est plus proche de ce qu'est le Maloya, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'intention politique a priori. Il est plutôt une intention de rassembler la communauté qui entend, qui est apportée d'oreilles.
Mm-hmm. Alors, un Maloya dans lequel monsieur, madame, tout le monde à la réunion va se reconnaître, peut-être?
Supposément. Supposément, mm-hmm. Parce qu'il y a quand même beaucoup de stratification culturelle et sociale à la réunion. Donc là, on est dans l'entre-genre des populations déclassées. Mm-hmm. On est vraiment dans les parties ghettoisées de l'île.
Ah, d'accord.
Qui ont longtemps été majoritaires en termes de nombre. Mm-hmm. Ce sont des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui, même encore aujourd'hui, qui ont des représentations assez décalées par rapport au monde métropolitain. Ah. Ou au monde moderne, par mm-hmm. rapport à la télévision. Par exemple, moi, dans mes recherches, j'habitais avec des gens qui étaient des devineurs, des thérapeutes traditionnels, si vous voulez, mm-hmm. qui, grâce au Maloya, font danser les morts.
Oh.
Et qui, grâce à ces morts, prennent la parole pour dire aux vivants ce qu'il faut qu'ils arrangent dans leur vie pour aller mieux. Donc, en général, parce que c'est une question de maladie ou une question mm-hmm. de... On a envie de séduire quelqu'un. Enfin, là, on entre dans tout le domaine de la sorcellerie, entre guillemets,
oui, oui, oui.
qui est en fait une culture très fonctionnelle, qui marche comme ça dans pas mal de régions du monde, hein, finalement.
Mm-hmm. Oui, mais... un mélange un peu syncrétique entre une religion officielle, ici, le catholicisme,
exact.
Et c'est ce reste, on pourrait dire, cette survivance de religion...
Voilà.
Traditionnel.
Voilà. Et le fait est qu'à La Réunion, cette survivance est très dynamique, notamment aux mm-hmm. abords du Maloya,
ah,
dont le roi Kaf vient de nous donner un exemple et dont nous écouterons tout à l'heure Gramoun Lélé donne aussi un exemple. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, moi, ayant voulu aller voir plus près ce qui se passait dans ces musiques qui étaient susceptibles de nous arriver lors de festivals de musique de l'été ou par disque pour danser le samedi soir mm-hmm. ou par copain qui nous passe une cassette qui va révolutionner notre vie. Enfin, d'aller voir plus près, ça m'a permis de rentrer dans cette troisième famille de Maloya qui est celle donc où le Maloya a une fonction et une signification sacrée.
Mm-hmm.
Donc moi, en tant que jeune chercheur qui n'a pas vraiment de culture religieuse, je me suis trouvé finalement happé par les services et les cérémonies qui se donnent une fois par an. Chaque famille, une fois par an, fait un culte mm-hmm. qui va durer 24 heures. Et là, elle va inviter toute sa famille, ses proches, ses voisins, ses amis. Et tout le monde va faire du Maloya pendant 24 heures.
Oh, wow.
Sans arrêt.
Uh-huh.
Donc, on mange, on tue des animaux, les dieux prennent possession des vivants, on se parle, on échange. Et le lendemain, tout revient petit à petit à la normale.
Petit à petit, oui.
Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été vraiment frappé par ça, parce que cette culture était très joyeuse, très vivante, tournée vers la santé. Et non pas vers le misérabilisme ou la maladie. Donc mm-hmm. on est vraiment dans quelque chose de lumineux et pas simplement une survivance du temps difficile de la misère,
oui.
et du temps longtemps de l'esclavage.
Mais dans la réparation, puis une sorte de justement de lumière, et
voilà.
Non pas de se lamenter sur quelque chose qui est passé, mais plutôt de tourner vers l'avenir, vers le mieux.
Exact. Et du coup, les années 2000 ont donné naissance à un Maloya dans le droit fil de Gramoun Lélé qu'on va écouter et du roi Kaf à nombreux groupes de gens qui se sont mis à chanter le Maloya soleil levant, c'est-à-dire le Maloya aussi finalement du roi Kaf et du Gramoun Lélé, c'est-à-dire de l'est de l'île,
mm-hmm.
qui est une région plus populaire que celle de l'ouest où sont nés justement le folklorisme et le parti communiste. Donc on a une cette troisième famille est quelque chose qui vient de faire une lame de fond. On vient d'avoir un tsunami à La Réunion, si vous voulez, dans les années 90-2000, et on n'en a pas encore tout à fait tiré les conséquences. Et en suivant le Maloya, ça m'a permis de faire la micro-histoire de ces gens qui n'avaient pas finalement été écoutés, entendus, à part dans leur musique, mais on ne comprend pas leurs paroles ou on ne comprend pas toujours de quoi ils parlent. Comme on va pouvoir l'écouter maintenant avec Ramoun Lélé, vous allez voir que le créole, qui a une tendance plutôt francophone, se mélange à des chants malgaches, comoriens, voire indiens, parce qu'il y a énormément d'indiens aussi à La Réunion qui ont remplacé l'esclave noir après 1848, date de l'abolition. On a fait venir des gens des colonies anglaises de l'Inde. Donc en fait, tous ces métissages-là ont créé une véritable culture réunionnaise qui n'a pas besoin qu'on lui dise comment elle s'appelle ou comment elle doit se comporter. Elle est là et le Maloya nous la donne entièrement à voir. Dans toutes ces paradoxes aussi, hein, il faut bien l'avouer. Donc on peut écouter, je crois maintenant, si vous voulez bien, un triple extrait de chansons de Ramoun Lélé.
Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, moi,
oui, soleil, oui, bonne maman, la ville canadelle, moi,
au soleil, oui, belle maman, la ville
canadelle,
moi,
oui, quand la tante est bonne maman, si c'est la tonne, mi ça va.
Par la santé, belle maman, si c'est la tonne, mi ça va.
Oui, quand la tante est bonne maman.
Thank you.
c'est entraînant. Moi, c'est drôle, j'écoute ça. Benjamin, ça me fait penser à des chansons à répondre québécoises. Est-ce que c'est moi qui hallucine ou...
Pas du tout. Je crois que t'es même en plein dans le mille. Tu tapes dans le mille. Parce que on a des écrits de 1630 à peu près, des chants qui se faisaient en France aussi. Et on sait que les Réunionnais, dans le Maloya, les chantent encore aujourd'hui.
Wow.
Par exemple. Et on a des répertoires de romances et de complaintes qui viennent donc de situations, par exemple, comme l'emprisonnement, la condamnation à mort, ou aussi sur tout ce qui est de l'ordre du mariage raté ou de l'amour impossible.
Oui, oui, enfin, oui.
Il y a énormément de chants à La Réunion qui ont trait à ce répertoire français-là. Et qui nous montre, quand on les regarde un peu de plus près, comment les esclaves ont appris le français aussi, mm-hmm. par rapport à ces chants-là, et y ont amené leur propre musicalité, qu'on a pu entendre aussi à la fin avec la voix de Jao Jobi, qui est un grand, le roi du Salègue, on l'appelle à Madagascar, un grand chanteur de Madagascar, qui l'a chanté avec Grand Moulélé, donc le Julien Phileas de son vrai nom. En fait, cette idée de chant à réponse est quelque chose de très actif à Madagascar aussi.
Mm-hmm.
Donc ça a pu rencontrer la musique des marins sur les modes mineurs qu'on a aussi au Québec.
Mais tout à fait, les chants de marins ici, qui ont donné lieu à toutes sortes de chants aussi de coureurs des bois, les gens qui faisaient de la drave et tout ça, les chants de draveurs, le motif musical qu'on entend qui répond toujours à celui qui, comme on dit en québécois, qui cale la musique, c'est intéressant.
Mais d'ailleurs, dans la thèse, à un moment, je parle du Québec par rapport au caleur, justement,
mm-hmm.
parce que là, on n'en a pas eu d'exemple, mais au milieu des Maloyas, souvent, on a le chanteur qui s'arrête pour laisser place à la musique et qui chante, qui invective l'auditoire à danser ou à changer de partenaire ou à faire des choses comme ça.
Uh-huh.
Et ça nous vient aussi à La Réunion de la tradition du quadrille.
Oui, tout à fait.
Les contredanses, les quadrilles, qui ont beaucoup joué à La Réunion dans ce qu'on a appelé le séga, mm-hmm. l'autre musique traditionnelle de La Réunion. Et donc ça fait que oui, il y a des liens énormes avec le Québec et qui serait nécessaire d'investiguer à mon sens, parce que même à La Réunion, on n'a pas fini de comprendre encore vraiment comment les esclaves ont créolisé l'apport européen en fonction de leur propre héritage culturel. Mm-hmm. Mais justement, et ça c'est ce que j'ai étudié plus en particulier en m'intéressant au culte, c'est qu'en fait j'ai pu comprendre un petit peu dans quelle mesure le fait de chanter ensemble en se répondant, puis le fait de danser aussi, que ce soit en étant possédé ou pas, parce qu'on peut danser mm-hmm. de manière un peu moins impliquée, fait quelque chose à chacun, c'est-à-dire lui fait du bien, parce qu'on partage une esthétique, on partage un tempo, on partage des mots.
Une sorte de thérapie sociale.
Exactement. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui est arrivé dès le début de la colonie, donc dès le bateau, on le sait, puisque dans les écrits qu'on a de l'époque, les Noirs étaient amenés à... On favorisait la danse sur les ponts pour être quand même en forme au lieu de rester à fond de cale toute la traversée.
Oui. Mm-hmm.
On les faisait danser, donc il y avait des instruments, il y avait des mélodies qui survivaient directement.
Mm-hmm.
Et ces choses-là sont arrivées dans l'île et se sont confrontées aux autres héritages culturels de l'Inde, mm-hmm. de l'Europe, pour donner un métissage particulier qui a donné donc ce Maloya au bout de 400 ou 350 ans. Et je trouve que c'est très important d'étudier ça du point de vue émique, c'est-à-dire des gens eux-mêmes. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de la culture religieuse, à mes risques et périls, parce que bien sûr, c'était tellement entraînant, comme vous l'avez peut-être expérimenté en écoutant. On a envie de mieux apprendre, de comprendre, mais mm-hmm. si tu commences à vouloir trop comprendre, on va te dire, ben, toi, c'est sûr que tu as du sang malgache, toi, c'est sûr que tu es africain, mais tu le sais pas, donc il va falloir que tu fasses des rituels, puis... rentrer là-dedans, après c'est difficile de prendre la juste distance,
oui, oui, oui.
que j'avais peut-être plus facilement eu avec le communisme et avec le folklorisme, si vous voulez.
Et là, comme chercheur, il y avait un danger.
Là, il y a eu quelque chose de l'ordre de la fusion avec le terrain, et puis ça, c'est tout l'enjeu de l'anthropologie. Puis je pense que en aparté de ma thèse, il y aurait vraiment, enfin même si j'en ai parlé un peu dedans, il y aurait vraiment un ouvrage à part entière à faire sur la manière dont on peut rentrer en adéquation avec l'autre. Avec un accent, une majuscule, je veux dire,
uh-huh.
puis qui en soi rejoint toute la problématique de la question de l'adhérence à la musique de l'autre, puis à la danse d'une musique qu'on ne comprend pas.
Mm-hmm.
Parce que je pense pas que beaucoup de Français, dont je suis, comprennent l'anglais qui est chanté, par exemple, en Jamaïque, etc. Vous voyez mm-hmm. ce que je veux dire? L'essence exacte nous échappe un peu. Et à La Réunion, c'est très intéressant de voir comment les gens comme Gramou Lélé mettent des mots qui n'ont pas de sens direct. C'est exprès pour rassembler justement dans le lé. On va pas dire de mots, on vient chercher l'affectivité de la personne.
Oui.
Et là, on se rapproche plutôt de la musique comme médicament. Et c'est très spécial, mais on pourrait maintenant, pour finir l'émission, j'ai pensé à Daniel Waro, bien sûr, qui est le fils spirituel de Firmin Viry, donc de toute la branche du Maloya communiste, qui est un indépendantiste convaincu, un altermondialiste à part entière, quelqu'un de très, très global dans sa pensée, qui lui-même a puisé dans le Maloya qui n'était pas du tout celui de sa jeunesse, un Maloya qui ne lui appartenait pas puisqu'il était un petit blanc lui-même et qui a rencontré des Noirs en faisant la lutte pour l'indépendance de l'île et qui s'est mis à chanter le Maloya peut-être mieux que d'autres, dans le sens qu'il lui était étranger, puis il en a fait son Maloya, donc il a peut-être affranchi le Maloya de certaines limites ce qui fait qu'aujourd'hui Daniel Waro est de loin, très loin, le Maloyeur le plus écouté dans le monde. Et justement, c'est là qu'on retrouve cette espèce d'universalité de la musique et de la langue et du partage musical qui crée une société, qui crée un groupe, qui est au cœur donc de l'anthropologie et des sociétés créoles où se crée l'identité de demain, qui n'est pas une identité clivée noir-blanc, mais
non,
plutôt mélangée.
C'est nouveau.
Comme dit Daniel Waro, bâtarde.
Mm-hmm. Ouais. Et sans péjoratisme.
Justement, il reprend le péjoratisme pour le valoriser.
Uh-huh.
C'est une question de jouer avec les stéréotypes, mais comme on a eu un temps Black and Proud, etc. Enfin, c'était un moment important quand même du renversement. Et donc là, c'est un morceau qui va certainement vous toucher parce que Daniel Waro nous raconte ses souvenirs de jeunesse dans une langue qui vous échappera sûrement. Mais il est au coin du feu avec sa mère qui lui dit de faire attention aux éclats alors qu'elle cuisine. Et vous allez voir, la musicalité de la langue va vous ensorceler.
Merci beaucoup, Benjamin Lagarde, d'avoir voulu partager avec nous cet enthousiasme pour cette belle musique. Pour moi, c'est vraiment une découverte, là, le Maloya de l'île de la Réunion. Alors, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. On attend le livre ici de ta thèse avec impatience.
Merci.
Alors, merci
pour
ton passage.
C'est un plaisir aussi. Merci.
Alors, on se laisse sur cette pièce de Daniel Waro. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tu parles d'une histoire. C'était Catherine Ferland au micro, Gérald Daoué à la mise en onde. Bye-bye tout le monde.
Dale la lino plein, boy una vola lino plein.
Mi avan zaiko. Oh mi avan, mi avan.
Mi avan zaiko. Oh mi avan, mi avan.
Tizikitiza du guaza ki petu suma mi lumaila. Takabuka na leo la moleza, pues imeti mamaila.
Tizikitiza du guaza ki petu suma mi lumaila.
Méconnu. Ça vous est sûrement arrivé, vous aussi, de vous procurer un album juste pour une pièce, une chanson, un succès qui vous a plu. Après écoute, il y a un ou deux airs que vous n'aviez jamais entendus qui attirent votre attention et qui vous restent dans la tête parce que trop beau. Bien, l'émission Méconnu est là pour ça. Musique éclectique d'artistes connus qui saura vous surprendre au détour. Animée par Claire.